Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Si autour de vous, vous demandez quelle est aujourd'hui la maladie infectieuse la plus dangereuse, la plus mortelle à l'échelle planétaire, en dehors bien sûr du Covid ces dernières années, pas évident qu'une majorité donne la bonne réponse. Et pourtant, cette maladie, elle est à la fois ancienne et très connue. Cette infection, c'est la tuberculose. On l'associe surtout à l'atteinte des poumons, mais la bactérie incriminée peut s'attaquer à d'autres parties du corps, d'autres organes comme les os, les reins, les ganglions ou plus rarement le cerveau. Et un autre fait peu connu au sujet de la tuberculose, c'est que près du quart de la population mondiale a été infectée. Mais bien sûr, l'essentiel ne développera jamais la maladie. D'où l'importance de connaître les conditions, les facteurs qui peuvent favoriser le passage à la phase active de l'infection, de savoir en repérer les symptômes les plus courants et bien sûr, pour les personnes qui présentent ces signes, de se faire tester pour recevoir un traitement antibiotique adapté et de respecter surtout la prescription jusqu'au bout. La tuberculose, aujourd'hui dans Priorité Santé, une maladie connue et redoutée depuis l'Antiquité, mais toujours d'actualité. Prévention, diagnostic, prise en charge de la tuberculose reste sous-dotée. Une maladie présente dans toutes les régions du monde avec 46% de nouveaux cas en Asie du Sud-Est, 23% dans la région africaine. Et avec nous en studio, on retrouve le professeur Stéphane Jauré-Guibéry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre en région parisienne. Problématique de la tuberculose chez les enfants. On va retrouver tout à l'heure en ligne de Genève le docteur Daniel Martinez-Garcia qui est pédiatre responsable pour Médecins sans frontières du projet Tactique pour étendre le diagnostic et le traitement de la maladie. Et puis, focus aussi sur la co-infection tuberculose-VIH. On va donner la parole à Jennifer Pasquier, elle est directrice scientifique chez SIDAction. SIDAction 30e édition, c'est du 22 au 24 mars. Campagne 2024 pour bien sûr recueillir des fonds pour lutter contre le sida et financer la recherche. Et puis, une bourse d'excellence sur le thème de la santé des femmes qui s'adresse aux soignants du Sud. Bourse Denis Mukwege, Fondation Pierre Fabre. On va en parler en fin d'émission avec le responsable du Master en Santé mondiale, le professeur Renaud Becquet, au sein de l'Institut de Santé publique d'épidémiologie et de développement de Bordeaux.
Priorité santé sur RFI.
Alors, la tuberculose, le nom de ces maladies est bien sûr très connu, professeur Jauré-Guibéry. Pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent que cette infection ne s'attaque pas simplement aux poumons. Ce n'est pas juste une maladie respiratoire, mais elle peut bien aussi toucher d'autres parties du corps.
Oui, vous avez raison. En fait, la tuberculose commence toujours par une infection des poumons, mais la tuberculose peut s'exprimer dans tous les organes. Tous les organes peuvent être touchés et elle peut se réveiller, cette tuberculose, dans n'importe quel organe.
On sait qu'il faut se faire tester si on a des doutes. Justement, quand on parle de ces symptômes de la tuberculose, on doit avoir en tête quel type de signes et de changements parce qu'on a un auditeur, hein, Arsène du Burkina Faso, qui demande tout simplement comment la tuberculose se manifeste-t-elle ?
Alors, on parle de tuberculose maladie ou d'infection latente. Justement, vous avez mentionné tout à l'heure qu'un quart de la population mondiale a probablement été infectée, mais ça ne veut pas dire que ceux-ci sont malades, parce qu'en fait, de manière générale, on contrôle son infection dans l'immense majorité des cas. Pour une petite proportion des patients, on ne va plus contrôler cette infection et la tuberculose va donc se réveiller et donner une atteinte de n'importe quel organe. Effectivement, le plus fréquent, c'est le poumon. Après, souvent, ce sont les ganglions. Mais tous les organes peuvent être touchés. Vous l'avez dit, l'os, le tube digestif, les méninges, le cerveau. L'un des signes principaux, c'est clairement la fièvre. Souvent la nuit, souvent très importante et surtout un amaigrissement, une asthénie, une perte de poids, on ne mange plus, on s'altère très progressivement et bien sûr des symptômes en rapport avec l'organe touché, comme la toux par exemple, bien sûr, quand on a une atteinte pulmonaire, est tout à fait fréquente.
Ça veut dire qu'on se traite par exemple pour une bronchite, une atteinte des poumons, on croit que c'est quelque chose qui va passer comme ça. ça reste, on maigrit, on a de la fièvre. Là, il faut se poser des questions.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est un scénario assez classique. Hein. On est traité pour une infection pulmonaire dite banale avec des traitements classiques d'infection pulmonaire banale et ça n'évolue pas bien. Et donc là, effectivement, assez rapidement, il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas autre chose et un germe un peu plus compliqué à diagnostiquer et traiter.
On a parlé des tuberculoses latentes. Sylvain du Sénégal demande sur la page Facebook de l'émission s'il est pertinent de traiter toutes les personnes atteintes de tuberculose latente. Ça ferait beaucoup de monde, hein, professeur Jory Guibéry.
Ah bah oui, absolument. C'est pour ça que les stratégies qui sont développées, c'est plutôt de traiter les personnes ayant une infection latente autour des cas qui, eux, ont fait une infection patente, c'est-à-dire une tuberculose maladie.
On va parler de la prise en charge de la vaccination tout à l'heure, notamment avec les questions des auditrices, des auditeurs. Mais au sujet de la répartition géographique de cette maladie, on l'a dit, elle est présente sur toute la planète. Est-ce qu'il y a vraiment des conditions qui favorisent la transmission de ce bacille de Koch? C'est l'agent infectieux. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient expliquer qu'il y a plus de cas de tuberculose dans certaines régions du monde que d'autres?
Alors, ce qu'on a vu un peu sur les données, on va dire, du XXe siècle, hein, c'est que lorsqu'on bénéficie d'une amélioration des conditions de vie, des conditions nutritionnelles, diminution de la promiscuité, etc., on a assez naturellement une diminution en fait de la transmission de la maladie. Ça a été la première grande cassure en fait évolutive d'un point de vue épidémiologique concernant la tuberculose.
Maladie de la misère.
En Europe, c'est un peu une maladie de la pauvreté, de la misère, tout à fait.
On a un message d'un auditeur qui est aussi un soignant, Galance de RDC. Il est à Ilebo dans le Kassaï. Il nous écrit, je vous lis son message. Je suis médecin généraliste et sur 10 patients que je reçois, au moins 2 sont tuberculeux. Il y a vraiment beaucoup d'infections dans la région. Illustration, justement, ce contexte du Kassaï de la RDC, un niveau de prévalence qui est absolument incroyable. En tout cas, c'est l'expérience du médecin Galant, ce qu'il dit. C'est des chiffres qui peuvent vraiment impressionner.
Tout à fait. La RDC, avec le Nigeria, hein, font partie des deux pays africains qui présentent le grand nombre de cas de tuberculose à l'année.
On a parlé tout à l'heure des symptômes. On imagine on va dans un centre de santé, qu'il s'agisse d'un centre local, d'un hôpital régional. C'est quoi l'examen de rigueur pour le diagnostic?
Alors, ça dépend un petit peu on va dire, des politiques des différents pays, mais c'est assez bien cadré par l'OMS. Il y a des fonds hein, qui sont vraiment libérés pour le diagnostic et le traitement spécifique de la tuberculose. Ça repose sur deux grands examens complémentaires. Finalement, c'est la radio de thorax et l'examen des crachats. Au sein desquels on va chercher la bactérie et si on la trouve, on la traitera.
Alors, défi diagnostique en particulier pour les enfants, on va en parler avec vous, docteur Daniel Martinez-Garcia. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes pédiatre chef de clinique au service de santé des migrants et des adolescents de l'hôpital pédiatrique universitaire de Genève. Vous êtes aussi un pour MSF docteur responsable du projet tactique pour étendre le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Alors on a parlé justement de cette dimension géographique et régionale. Quelles sont les zones, les pays dans lesquels vous intervenez dans le cadre de ce programme tactique?
Donc pour le projet, juste pour donner un cadre général, ça fait Médecins sans frontières, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille en lien en particulier avec l'OMS dans l'amélioration des traitements pour la tuberculose. Et en particulier, on est dans plus de 37 pays avec des projets en lien avec la tuberculose. Et le projet tactique en particulier, on essaie d'étendre et d'améliorer les diagnostics et la prévention de la tuberculose pédiatrique. On va, dans la première phase, travailler dans 12 pays différents.
12 pays. Vous avez identifié, au-delà justement de la désignation de ces États, les contextes particuliers. On a cité tout à l'heure ce mot un petit peu expression convenue de maladie de la misère. Ces contextes qui peuvent compliquer la prise en charge, en particulier chez les enfants.
Oui, il faut dire que c'est une maladie de la pauvreté, de la négligence. Donc, à Médecins sans frontières, on travaille dans des contextes humanitaires extrêmement précaires, où on associe en plus de la pauvreté, la violence, la difficulté d'accès à des moyens et à du personnel de santé. Et dans ces contextes-là, les enfants sont encore plus vulnérables. Et la tuberculose, je vais donner quelques datas, c'est environ 12% des cas totaux de tuberculose. Ça fait 1,2 million d'enfants à toucher chaque année. Mais on pense qu'il y a 6 enfants sur 10 qui ne sont même pas diagnostiqués. Ça fait environ 200 000 décès, avec 96% qui n'ont jamais commencé le traitement. Ça fait des décès qui sont invisibles au monde. Donc on a vraiment un souci en termes de diagnostic. Et avec ce que disait mon collègue, je vais juste insister sur le fait que chez les enfants, il est extrêmement difficile de faire le diagnostic parce que souvent, dans les radiographies, on n'observe pas les formes pulmonaires classiques chez les adultes. Et les crachats sont très difficiles à obtenir chez les enfants, particulièrement les moins de 5 ans qui sont ceux qui ont le plus de mortalité et les formes de plus graves.
d'un point de vue mécanique, tout simplement, parce que les enfants, on a du mal à les faire cracher et avoir une expectoration, on va dire un crachat, je suis concrète, sur lequel on peut travailler à l'examen, au microscope. On imagine que cette maladie, elle impose un traitement lourd. Est-ce que ce traitement, il va être d'autant plus lourd que l'enfant va être pris en charge tard ou pas vraiment ?
Oui, donc il y a déjà, il faut comprendre qu'il y a, si on veut, pour traiter un cas actif de tuberculose, le traitement est long, lourd, avec des effets secondaires. Mmh. En pédiatrie, la plupart des cas ont attrapé la tuberculose en étant en contact avec un patient avec des signes assez clairs de tuberculose. Mmh. Donc, chaque fois qu'on détecte un cas de tuberculose chez un adulte, il devrait y avoir un screening systématique des contacts parce que les enfants, très rapidement, ils vont développer une tuberculose. Et dans la phase initiale, avant qu'ils aient des symptômes, on pourrait les traiter de forme préventive et on éviterait les traitements longs.
Antibiothérapie, hein, puisque c'est une bactérie. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique pour les enfants, puisqu'évidemment, ils n'ont pas les mêmes organismes, ils ne supportent pas les mêmes choses que les adultes ?
Ça, c'était un des gros soucis dans les années récentes. On avait peu de traitements adaptés, on faisait des adaptations des traitements adultes. Maintenant, on a de plus en plus de formulations pédiatriques, mais parfois, elles ne sont pas accessibles dans les contextes précaires ou dans les contextes humanitaires.
Ça veut dire qu'il faut améliorer aussi l'information qu'on fait passer pour améliorer ce diagnostic. C'est quoi vos préconisations à MSF, justement, pour que les communautés soient davantage en alerte pour protéger les enfants de la tuberculose ?
Il y a vraiment un travail en première ligne avec les autorités locales et régionales pour être sûr que dans les programmes nationaux de tuberculose, il y a un accent sur le screening des cas contacts pour rapidement essayer de réduire le gap parce qu'on a beaucoup moins de temps. Un enfant, dès qu'il est contact, on doit le mettre sous traitement préventif de manière plus vite. Et donc, il y a une urgence à le faire le plus vite possible, à mettre à disposition les médicaments. Parfois, il n'y a pas suffisamment de médicaments, donc à supporter ces programmes pour pallier leur gap en termes d'accès à des médicaments. Et aussi, il y a un gap en termes de diagnostic. Comme je vous dis, en pédiatrie, c'est très surnoi. C'est pas les signes classiques qu'on voit chez les adultes. Parfois, on a des patients qui ont juste des pertes de poids, des fièvres irrégulières. Donc, c'est pas du tout un tableau clinique simple.
Ça peut être assimilé, par exemple, à une gastro-entérite.
Ça peut ressembler à tout. La tuberculose est un grand caméléon de la médecine en pédiatrie. Elle s'apparente à beaucoup de choses. Donc, en fait, récemment, l'OMS a lancé une nouvelle feuille de route avec des algorithmes cliniques qui vont aider fortement les cliniciens de première ligne à oser diagnostiquer plus facilement la tuberculose. C'est un peu un cercle vicieux. Comme on sait que les traitements actuels sont longs, sont compliqués, sont difficiles à mettre en place, on a du mal à dire, cet enfant-là, avec ses symptômes, est-ce que c'est vraiment une tuberculose ? Et je pense qu'il faut oser. On a trop d'enfants, on diagnostique trop tard. Quand ils ont des signes avancés, le risque de mortalité associé à une tuberculose sévère est beaucoup plus important.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. On retrouve notre invité en studio, professeur Jory Guibéry, tuberculose pédiatrique. Alors, on comprend bien qu'il y a des recommandations. Quand un cas est dépisté dans un cercle, au sein d'un foyer, au sein d'une concession, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que toute la famille aille au centre de santé ou il faut que ce soit davantage un agent de santé qui se rende sur place pour faire, en fait, une consultation mobile, on va dire, pour augmenter le chance de toucher tout le cercle. C'est vraiment un vrai problème de santé publique.
Ah, complètement. Ce qui est sûr, là, le collègue suisse l'a bien rappelé, il faut dépister en fait les cas contacts autour des cas malades, hein, puisque statistiquement, c'est autour des patients malades qu'on va trouver le plus grand nombre d'infections, enfin de patients avec infections latentes nécessitant traitement, avant justement la déclaration des symptômes.
Avant la déclaration. On va poursuivre cet échange avec bien sûr les questions des témoignages des auditeurs, hein, ça va être tout à l'heure en direct. Co-infection, tuberculose, VIH, on va en reparler aussi. Ce sera juste après ce titre, I am DDB, Ibiza dans Priorité Santé. Le 24 mars, journée mondiale de la tuberculose. On en parle dès aujourd'hui dans Priorité Santé sur RFI. Toujours avec nous en studio, professeur Stéphane Jauré-Guibéry, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bicêtre au Kremlin-Bicêtre. Et un premier auditeur en ligne avec nous. Il est au Cameroun et c'est vous, Billy à Yaoundé. Billy, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors Billy, Oui, allez-y, excusez-moi.
Bonjour, professeur qui est en studio.
Alors, vous appelez au sujet, Billy, de votre fils de 22 ans. Lui, il a présenté des signes, des symptômes en octobre dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé précisément à ce moment-là?
Oui, Caroline. En octobre, il a eu quelques petits soucis de santé. On a cru qu'il c'était une toux bénigne. Mmh. Alors, le médecin lui a prescrit un antitussif et un antibiotique. Mais quelques temps après, il continuait à maigrir et voilà, la toux n'était plus intense, mais elle avait mal à la poitrine. Mmh. Alors, le médecin l'a pris, il a fait une radio pulmonaire, on a diagnostiqué une infection pulmonaire et il a été mis sous soins intensifs pendant 3 semaines. Mais au bout de 3 semaines, le médecin s'est inquiété parce qu'il n'y avait pas de changement, au contraire, ça s'empirait. Alors, il a estimé qu'il était bon qu'on fasse un test de tuberculose qui s'est avéré positif et immédiatement, il a été référé à un centre hospitalier, le centre Jameau au Cameroun, qui s'occupe particulièrement des soins de tuberculose. Mais au préalable, il nous a prescrit de faire un examen urécréa pour s'assurer, j'imagine, qu'il pouvait bien prendre les soins. Il a été pris directement en charge dans cet hôpital et il a pris les soins. Il a fait un mois et demi d'hospitalisation.
Oui.
On lui a prescrit, je crois, il prenait au premier plan un médicament qu'on appelait l'ORES, RHEZ, pendant 2 mois. Et au sortir de l'hôpital, il a fait un premier examen de crachat. Le médecin nous a dit que cet examen était pour s'assurer qu'il n'est plus contagieux. Enfin. Voilà.
Oui, pour retourner dans la communauté, pour éviter évidemment qu'il puisse transmettre à des amis ou à la famille. Ça veut dire qu'il a plutôt eu un bon parcours de soins. Aujourd'hui, comment se porte votre fils?
Il se porte très, très bien.
Ouais.
Et lundi, parce qu'il est en train d'engager son 6e mois de soins, parce que ça fait... Et depuis qu'elle a commencé, ça fait 5 mois. Et voilà.
Et il a bien fait attention à prendre très correctement les médicaments, j'imagine. Vous étiez avec lui.
Oui, j'y ai passé avant. Il a compté sa maladie étant. Il est à l'université, il habite à la cité universitaire, mais je l'ai fait revenir à la maison.
Oui.
Et je veille à ce qu'il prenne ses soins tous les 5 heures du matin. Mmh. Et il suit vraiment parce que, évidemment, il n'a pas de choix. C'était très douloureux, enfin, voilà.
Mmh. Et là. Donc là, il reste combien de temps encore de médicaments à prendre pour votre fils?
Un mois.
Ok. Oui. Alors, on voit qu'il se porte mieux. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle, surtout s'il est engagé dans des études. On écoute vos questions à notre invité qui est infectiologue. Allez-y, je vous en prie.
Oui, ma question est la suivante. La première, c'est est-ce qu'il peut réellement, effectivement guérir? Est-ce qu'on peut parler d'une guérison absolue en termes de tuberculose? La première question. Mm-hmm. La deuxième question, quelle est la conduite de nous qui l'avons côtoyé au moment où on ne savait pas qu'il était tuberculeux?
Mm-hmm.
Troisième question, est-ce qu'il y a un lien entre la tuberculose et le mal d'estomac? Parce que lorsqu'il était hospitalisé, il avait vivement des maux d'estomac et il a été mis sous soins pendant qu'il était hospitalisé et on avait diagnostiqué un mal d'estomac.
D'accord.
Je veux savoir s'il y a un lien entre le mal d'estomac et la tuberculose. Voilà.
D'accord. Bon, évidemment, Billy, vous savez qu'on ne fait pas de consultation à distance, donc ça va être des suppositions. En tout cas, professeur Jory Guibéry, la tuberculose, quand on suit correctement le traitement jusqu'au bout, est-ce qu'on peut en guérir ?
Oui, alors je crois qu'il faut quand même dire qu'effectivement, c'est une maladie qu'on sait quand même bien diagnostiquer, pour laquelle il existe des traitements. Et quand c'est pris à temps, et là, si j'ai bien entendu le traitement reçu par votre fils, monsieur, c'était probablement une tuberculose assez standard dans la sensibilité du germe aux antibiotiques. Il a reçu le traitement très officiel, le fameux RES, qui est tout à fait efficace, et encore un mois de traitement à tenir, et après on pourra dire qu'il a guéri de cette tuberculose. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que la tuberculose n'est pas une maladie immunisante. C'est pas comme certaines maladies virales, je sais pas moi, la rougeole par exemple, vous la faites une fois et vous ne la réattrapez pas. Là, la tuberculose, on peut réattraper la tuberculose, c'est pas immunisant. Donc on va dire que cet épisode de tuberculose, là, je pense, va être bien traité, il n'y aura pas de problème, mais bien sûr, on peut tout à fait, dans sa vie restante, de nouveau l'attraper à nouveau.
Pour la famille, la question importante, quand on a vécu avec quelqu'un qui était tuberculeux soi-même, est-ce qu'on doit être plus vigilant, voire est-ce qu'on doit se faire tester ?
Alors, effectivement, ça, je pense que ça dépend un petit peu des politiques des différents pays, savoir qui doit bénéficier du dépistage proactif, vraiment actif, autour du cas. Ça dépend un peu du niveau de promiscuité et de vie commune, en fait. C'est souvent les parents très proches ou les gens qui vivent sous le toit qui doivent être dépistés pour bien faire, effectivement, dépister l'infection latente pour la traiter au plus vite.
Donc, sur ce point, Billy, je pense qu'il faut vraiment en parler à votre médecin, poser la question, expliquer, par exemple, comment vous mangez, les lieux de vie que vous partagez au moment où vous ne saviez pas que votre fils était... En tout cas, professeur Jory Guibéry, est-ce qu'à partir du moment où il est sous traitement, il est plus contaminant ou il y a quand même, on va dire, quelques mois de latence ?
Alors ça dépend, on va dire, de l'importance de l'infection tuberculose au moment du diagnostic. Ce qui est sûr, c'est que les médicaments, là, le schéma reçu par le fils de Billy est extrêmement puissant. C'est le traitement le plus puissant, historique, et très efficace. Et en quelques jours, en fait, la charge bacillaire, la quantité de bactéries diminue très vite et le risque de contagiosité diminue en parallèle extrêmement rapidement. On dit qu'en général, on contamine les gens avant le début du traitement. À partir du moment où le traitement commence, finalement, dans la semaine qui suit, déjà, le taux de contamination secondaire est extrêmement, extrêmement faible, en fait.
Donc, il y aurait peut-être une question aussi, vous avez parlé d'une cité universitaire, sur les camarades qui partageaient une chambre universitaire avec votre fils, c'est peut-être eux les alerter et poser la question. Dernier point sur le mal d'estomac, est-ce que c'est lié à la tuberculose ou est-ce que c'est lié au traitement contre la tuberculose ? Là, peut-être qu'il faut aussi poser la question à un médecin.
Oui, alors c'est une question un peu difficile comme ça, parce que, bon, mal d'estomac, on peut imaginer aussi que votre fils était hospitalisé, très inquiet. On peut avoir un ulcère aussi dans ce contexte-là. Bon, les médicaments donnent pas mal à l'estomac. Après, on peut avoir des troubles digestifs liés ou à la prise médicamenteuse, bien sûr. Et puis, la tuberculose peut aussi donner des atteintes. Alors, c'est vrai que classiquement, l'estomac, on dit que l'estomac n'est pas le lieu de réactivation de tuberculose. Mais enfin, des ganglions au niveau abdominal peuvent faire mal. Et donc, l'atteinte tuberculeuse peut donner mal au ventre, en fait. Voilà
pour ces renseignements. Un grand merci à vous, Billy, pour votre appel. On part tout de suite pour le Sénégal.
RFI à Dakar, 92 FM.
En ligne, c'est Ndoyane. Ndoya, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes âgée de 32 ans. Vous avez contracté une tuberculose en 2020. Comment est-ce que le diagnostic a été posé ? Sur la base de quels symptômes ?
Bon, en fait, je vous salue tous. En fait, ça a été difficile parce que je suis déjà asthmatique.
Ouais.
Donc, j'avais une confusion vraiment pour distinguer les symptômes. C'est grâce à mon mari qui a su détecter ma sudation nocturne qui était vraiment, vraiment intense, qui voyait que je perdais du poids, surtout aussi mes collègues. Donc, moi, je m'abstenais à toute insinuation par rapport à la tuberculose. Je me disais que c'était l'asthme. Au fil du temps, je commençais à avoir des douleurs articulaires vraiment intenses. Je devenais très, très, très nerveuse à tout point de vue. Et c'est à ce moment-là où je suis partie voir un pneumologue. Donc, arrivé là-bas, lui, il m'a dit carrément de faire la radiographie de mes poumons parce que déjà j'étais asthmatique. Auparavant, il a déjà fait des prescriptions, mais il m'a dit de ne pas entamer les médicaments, de faire la radio pour qu'au moins, lui, qu'il y ait une idée de ce dont je souffre. Donc, c'est après la radio que je suis revenue. Donc, il m'a dit, Madame Doy, donc vous avez une suspicion de tuberculose. Donc, il faut aller directement à l'hôpital femme. Donc là, Caroline, j'ai traîné parce que je suis biologiste de formation, je sais. J'avais carrément oublié que la tuberculose n'était pas imminente. Donc, je pouvais rattraper la maladie, même si j'étais vaccinée. Donc, je traînais. À un moment, j'en pouvais plus. Donc, je suis partie directement à l'hôpital dentaire. Là, on m'a fait le test des crachats et il s'est avéré que je souffrais d'une tuberculose un peu avancée quand même.
Ouais.
Parce que j'avais perdu le poumon droit et le poumon gauche était un peu attaqué. Oui.
Donc, il y a eu trop de temps entre les symptômes et ce diagnostic. En tout cas, vous avez été traité. Ça va comment aujourd'hui?
Bon, comme le dit le professeur, j'étais très contente du monsieur qui a posé les questions parce qu'il y a des séquelles en fait. Parce que là, j'ai ma capacité respiratoire qui a vraiment, vraiment diminué.
Oui.
Même pour passer la CLTS, je souffre, je suis obligée de faire des petites, comment dirais-je, des arrêts, je peux dire.
Oui.
J'ai des douleurs articulaires qui me font très mal et je suis devenue hypochondriaque. C'est-à-dire qu'à chaque fois où je commence à avoir des douleurs au niveau de mes poumons, de mes ganglions, de mes narines, donc je me dis, hop, j'ai attrapé encore de la tuberculose. Et jusqu'à présent, je n'ai pas récupéré ma masse pondérale normale. Et je traîne ces séquelles-là.
Est-ce que votre entourage, est-ce que votre mari, par exemple, puisque vous avez cité son rôle déterminant sur le diagnostic tout à l'heure, est-ce qu'il a fait un test pour savoir où il en était?
Oui, je vous disais, je suis biologiste, donc je connais les méthodes de contamination. Moi-même, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre parce qu'avant, je connais la période de contamination avant que je commence le traitement.
Oui.
Donc, au moment où j'ai commencé le traitement, je dis au médecin que mon mari et mon fils, parce qu'on habitait dans un studio, devait faire les radios. Et heureusement, c'était négatif, à la grâce de Dieu.
Donc ça nous renvoie à plusieurs questions de Ndoya, professeur Jory Guibéry. Déjà, elle était vaccinée et elle a contracté la tuberculose. Ça veut dire que c'est une condition pour se protéger, mais ce n'est pas une condition qui évite totalement la maladie.
Oui, on estime que le taux de protection du vaccin, le BCG, hein, c'est l'ordre de 50% dans les formes pulmonaires, donc bien, mais pas extraordinaire.
Et c'est vrai qu'on peut-être que certains auditeurs, moi-même, je me pose la question, pourquoi son mari et son fils n'ont pas attrapé la maladie alors que tout le monde vivait ensemble dans un espace assez réduit?
Ah bah ça, on est tout à fait dans les maladies infectieuses. Hein. Donc, dans la tuberculose, on estime que même les personnes qui sont exposées à la maladie ne vont pas forcément la contracter. Il faut être suffisamment proche, être exposé à un aérosol, c'est-à-dire une quantité de bactéries suffisamment importante. Et même dans ce cas-là, donc on est infecté. Et dans ce cas-là, on va contrôler l'infection dans 90% des cas pendant toute sa vie. Ça, c'est vraiment l'évolution naturelle de la maladie. C'est 90% des gens qui sont infectés par la tuberculose vont rester parfaitement asymptomatiques toute leur vie et 10% vont faire la maladie. Et schématiquement, on dit que c'est à peu près 5% des personnes infectées qui vont faire la maladie tuberculeuse dans les 2 ans qui suivent l'infection et 5% qui vont faire la maladie tuberculeuse sur toute la vie restante. Et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que pourquoi on réactive une tuberculose? Eh bien parce qu'on a souvent une diminution de l'immunité, c'est-à-dire la protection vis-à-vis du BK. Tant qu'on contrôle l'infection, eh bien celle-ci est latente, endormie, tapie, et ça se passe bien. Mais si jamais on a une autre maladie qui peut survenir, eh bien on va avoir une diminution de nos défenses immunitaires et cette maladie, la tuberculose va se réactiver.
Une fragilité. On remercie en tout cas beaucoup Ndoya pour son témoignage. C'est dans une autre ville du Sénégal, à Touba, on retrouve Abdou Fattah. Bonjour.
Oui, bonjour Caroline, bonjour professeur.
Vous avez 28 ans, Abdou Fattah. Vous, des premiers symptômes il y a 4 ans, et vous avez contracté une tuberculose particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé?
Oui, c'était en 2020. J'ai commencé à sentir des symptômes, la fièvre et aussi la toux. Et je me suis allé vers un médecin. Il m'a prescrit des médicaments contre le paludisme.
Oui.
Parce que je ne croyais pas que c'était de la tuberculose. Au bout de 2 mois après, les symptômes commencent à persister.
Oui.
Quand c'est touché, il y avait du sang qui sortait par la bouche et aussi par le nez.
Mm.
Je me suis retourné en urgence vers l'hôpital. Le médecin m'a prescrit une radiographie thoracique. Après, il m'a dit que voilà, vous avez une souffrance de la tuberculose.
Il y avait la tuberculose et vous, la vôtre, elle était particulière, Abdou Fattah, parce que c'était une tuberculose résistante. Comment est-ce que vous avez compris, comment les médecins ont compris que cette tuberculose, eh bien, elle résistait aux médicaments?
Bon, après le premier traitement, à l'espace de un an, j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau du poumon gauche. Quand je respirais, il y avait un bruit. Et je me suis allé vers l'hôpital. Le médecin m'a demandé si j'avais un antécédent. Je lui ai expliqué que j'avais de la tuberculose, que c'est traité, et qu'on m'a déclaré guéri il y a de cela un an. Il m'a prescrit encore un autre test à faire, un crash à barre.
Oui.
Oui, je me suis retourné à l'hôpital pour le faire. Et le médecin m'a dit que voilà, vous avez de la tuberculose, mais de forme résistante.
D'accord, parce qu'il y avait une analyse qui permettait de comprendre la spécificité, hein, professeur Jory Guibéry. Dans ce cas-là, on voit quelle est la nature en fait, de l'agent infectieux et on voit que c'est un super agent infectieux.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs. Abdou Fattah raconte une histoire tout à fait qui illustre tout à fait cette problématique des résistances. La résistance à la tuberculose, hein, c'est quasiment un demi-million de cas chaque année, hein, dans le monde, parmi tous les 10 millions de nouveaux cas de tuberculose annuels à l'échelle mondiale. Et clairement, d'avoir un antécédent de tuberculose traité est un facteur de risque parce que on sait que les médicaments sont bien sûr efficaces, mais il peut y avoir des problèmes de dosage, problèmes de prises, des prises ratées, des choses comme ça. Et ça favorise en fait l'émergence de ce qu'on appelle de mutants résistants, c'est-à-dire de bactéries qui ont acquis des résistances à certains antibiotiques et aux antibiotiques dits majeurs, antituberculeux. Donc on va rechuter sous une forme, disons, de tuberculose standard, mais par contre, la bactérie en elle-même est devenue beaucoup plus résistante et beaucoup plus difficile à traiter, nécessitant des médicaments particuliers et souvent des durées plus longues de traitement. La deuxième question, c'était des tests rapides de diagnostic de ces résistances. Oui, ils existent. On parle de techniques dites biomoléculaires, hein, qui sont tout à fait validées et encouragées par l'OMS, où on va dépister des gènes associés à la résistance aux antibiotiques, le support génétique de la résistance dans la bactérie. Hein, on va vraiment étudier au plan moléculaire, si vous voulez, la bactérie, pour mettre en évidence le support de la résistance aux antibiotiques. Et donc
ça veut dire qu'on va être traité plus longtemps et plus fort.
On va être traité plus longtemps pour l'instant, effectivement, avec des molécules différentes et donc des schémas plus compliqués avec beaucoup de molécules et des durées plus longues.
Et c'est vrai qu'il y a un problème. On remercie infiniment Abdou Fattah pour ce témoignage. Il y a un problème qui est évident, vous l'avez esquissé tout à l'heure, c'est quand on a, on va dire, en même temps, une autre maladie. D'ailleurs, peut-être souvent avant une autre maladie. Il peut y avoir, par exemple, une maladie chronique qui va rendre plus fragile. Il peut y avoir une autre infection qui va également rendre plus vulnérable à la tuberculose, professeur.
Tout à fait. Et on pense bien sûr au VIH-Sida, dont l'épidémie est étroitement corrélée en fait, à la tuberculose, parce que pour contrôler sa tuberculose, bien en général, il faut une bonne immunité. Et le VIH-Sida, justement, s'attaque à l'immunité. C'est un virus, hein, donc ça n'a rien à voir, c'est un virus, mais il s'attaque à l'immunité, à la protection de la personne malade. Et comme cette immunité diminue à cause du VIH, du virus du VIH, eh bien, on est beaucoup plus sensible à l'infection tuberculeuse et à la réactivation de l'infection tuberculeuse. Donc, quand on est VIH très immunodéprimé, on fait beaucoup plus souvent une maladie tuberculeuse.
Précisément, sur cette co-infection, on retrouve en ligne Jennifer Pasquier. Jennifer, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes directrice scientifique chez SIDAction. Le SIDAction, vous le savez, c'est cette grande campagne, mobilisation pour recueillir des fonds pour la lutte contre le sida et la recherche. 22-24 mars, 30e anniversaire. On va mettre tous les renseignements sur le site de l'émission, bien sûr. Jennifer Pasquier, est-ce que l'on sait aujourd'hui à l'échelle planétaire combien de personnes sont concernées conjointement par les deux infections dont on parle, hein, une virale, une bactérienne, tuberculose, VIH?
Alors oui, il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont co-infectées. Alors en termes de nombre, j'ai pas de nombre exact, mais j'ai la prévalence de la co-infection. La prévalence de la co-infection, elle est à peu près de 32% dans les pays africains, 17% dans les pays asiatiques, une vingtaine de pourcents en Europe et une vingtaine de pourcents aux États-Unis, Amérique latine.
Est-ce que le fait d'être séropositif, ça peut compliquer l'efficacité des antibactériens qui sont employés? On l'a compris tout à l'heure avec les témoignages des auditeurs, ça dure des mois et des mois, ces antibiotiques pour guérir la tuberculose.
Oui, il y a des interactions médicamenteuses, effectivement, entre les antirétroviraux qui sont utilisés dans le cadre du VIH et les antibiotiques qui sont utilisés dans le cadre de la tuberculose. Et les deux maladies en tant que telles, le professeur Jory Guibéry l'a bien dit, font une association meurtrière, en fait, puisqu'elles s'enflamment l'un l'autre en accélérant l'évolution de l'une et de l'autre.
Ça veut dire que l'observance, ça veut dire bien suivre son traitement, l'ordonnance jusqu'au bout, la bonne dose, la bonne durée, c'est, on va dire, encore plus important.
Oui, complètement, c'est complètement important parce qu'en plus on pourrait faire apparaître l'évolution de tuberculose résistante, comme on en a parlé juste un petit peu avant. Et puis les personnes qui vivent avec le VIH ont un risque de développer une tuberculose qui est quand même beaucoup plus fort que les personnes qui ne l'ont pas. On parle de 14 à 18 fois plus susceptibles de contracter la tuberculose. Et effectivement, l'observance, c'est le nerf de la guerre.
On sait que quand on parle aux auditeurs de l'émission, très souvent, il y a la question du financement des traitements. Là, ça tombe bien, c'est pris en charge par des traitements internationaux. Mais dans ces cas-là, il y a une deuxième question. Est-ce que l'ensemble des traitements VIH-tuberculose sont présents? Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas de rupture de stock? Est-ce qu'il n'y a pas de rupture d'approvisionnement pour les personnes concernées? Parce que ça peut être vraiment dramatique.
Oui, c'est une bonne question. Il y a une prise en charge qui est non homogène sur tout le territoire, si on parle notamment du continent africain, puisqu'il va y avoir des grosses disparités entre la prise en charge en capitale et la prise en charge en milieu un peu plus rural. L'OMS est claire. Il y a vraiment des protocoles de dépistage à faire pour des personnes vivant avec le VIH sur la tuberculose. Mais le problème, c'est que c'est quand même deux programmes qui fonctionnent en silo, c'est-à-dire qu'on va avoir le programme VIH et le programme tuberculose. Et ça entraîne des déplacements pour les patients qui ne vont pas avoir les traitements au même endroit. Niveau dépistage, ça se passe plutôt bien, où on a tendance quand même à dépister des personnes vivant avec le VIH de la tuberculose et dépister le VIH chez les personnes qui ont la tuberculose. Mais alors, quand il s'agit des traitements, il faut que les personnes fassent deux centres de santé, ou si elles sont suivies en association pour le VIH, il faut qu'elles passent au centre de santé public pour le traitement tuberculeux. Donc, c'est plus compliqué.
Des questions matérielles qui peuvent être absolument essentielles quand on doit prendre tellement de cachets tous les jours, parce que c'est vraiment pas une partie de plaisir.
Non, exactement.
Un grand merci à vous, Jennifer Pasquier, tous ces renseignements sur
merci
le site
beaucoup.
d'Action. Je le redis, je fais un peu du battage, mais c'est important, sur le site www.sidaction.org. Professeur Jory Guibéry, on arrive à la conclusion de notre échange. Plus de 10,5 millions de nouveaux cas chaque année de tuberculose. On a dit tout à l'heure, avec le témoignage de Ndoya, elle avait été vaccinée, ça n'a pas marché. Mais néanmoins, la vaccination, c'est absolument essentiel.
Alors, la vaccination reste essentielle, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il n'y a pas énormément quand même de recherche et de fonds sur la vaccination antituberculeuse, contrairement à d'autres pathologies. Et ça, on peut le regretter. Il y a quelques travaux en cours et quelques essais, mais quand même très peu par rapport à d'autres maladies. Les stratégies qui sont plutôt développées actuellement, c'est des nouvelles molécules, des traitements et des associations de molécules différentes visant à réduire justement le nombre de comprimés, visant à réduire la durée de traitement. Et ce qui est très à la mode actuellement, c'est d'adapter finalement les schémas thérapeutiques au type de tuberculose diagnostiquée. Parce que, en fait, depuis une quarantaine ou 50 ans, on a un peu des schémas thérapeutiques extrêmement systématiques, quel que soit le patient et quelle que soit la forme de tuberculose. Et là, on se dit qu'en fait, toutes les tuberculoses ne sont pas tout à fait équivalentes et que certains patients qui ont des petites, entre guillemets, tuberculoses pourraient bénéficier de traitements plus courts et tout à fait efficaces, ce qui permettrait bien sûr d'alléger et de faciliter l'observance et les traitements.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, une grande partie de la recherche, elle concerne justement ce vivre avec la tuberculose, se traiter et rendre en fait la charge de la maladie plus supportable.
Oui, c'est plutôt les stratégies qui sont développées sont plutôt celles-là, nouvelles molécules, nouveaux schémas thérapeutiques, adaptation des traitements vraiment aux patients, vraiment centrés sur le patient, plus que des recommandations générales pour tous les tuberculeux. Et on est plutôt dans cette optique-là. Et voilà. Après, il y a toujours, bien sûr, le dépistage autour des cas et puis les campagnes de prévention. Mais on est plus là-dessus, oui.
On a eu en quelques mots tout à l'heure des témoignages avec des séquelles. Ces personnes, par exemple, qui ont une tuberculeuse avec une atteinte pulmonaire, elles peuvent reprendre de l'activité physique, refaire du sport? C'est conseillé ou c'est l'inverse?
Non, il n'y a pas de contre-indication à rien, mais effectivement, il faut le rappeler, la tuberculose peut laisser des séquelles, parce que très schématiquement, au cours de l'atteinte pulmonaire, qui est la forme la plus fréquente de tuberculose, la tuberculose pulmonaire, en fait, schématiquement, crée des trous, ça fait des trous dans le poumon. Et cette perte de poumon, en fait, va cicatriser sous forme de cicatrices fibreuses au niveau pulmonaire et laisser des séquelles qui peuvent impacter, qui peuvent donner des tableaux d'insuffisance respiratoire. et impacter bien sûr les efforts physiques à venir. Donc tout dépend de la vitesse de diagnostic. Plus c'est diagnostiqué vite et traité vite, moins on va garder de séquelles respiratoires, par exemple pour la tuberculose pulmonaire. Donc oui, c'est encore un message important. Et je crois que ça a été bien dit au cours de l'émission, hein. Les sueurs nocturnes, l'amaigrissement, la toux, les crachats sanglants, ça vraiment, il faut vite aller consulter.
Aller consulter. Un grand merci pour votre éclairage, votre disponibilité, professeur Jory Guibéry. On va parler d'une bourse d'études pour les étudiants du Sud. Ce sera juste après ce titre de Queen, Don't Stop Me Now. Il n'en est pas question. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Excellence pour les soignants du Sud, objectif soutenir la formation en santé globale. Dans le domaine particulier de la santé des femmes, cette bourse s'appelle Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, Fondation Pierre Fabre. Et pour en parler, on retrouve le professeur Renaud Becquet. Bonjour professeur.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes responsable du master en santé mondiale dans les Sud à l'Université de Bordeaux, également directeur de recherche à l'INSERM. Cette nouvelle bourse, elle s'adresse à qui ?
Cette nouvelle bourse, elle s'adresse à des professionnels de santé qui travaillent dans les Suds et qui souhaitent se former à la santé globale. Nous l'avons mise en place parce que chaque année, on sélectionnait des bons candidats originaires d'Afrique francophone, mais les coûts étaient trop élevés pour ensuite venir suivre le master à Bordeaux.
Ça veut dire qu'ils vont étudier un temps à Bordeaux et pendant la période où ils étudieront donc dans cette ville de l'ouest de la France, du sud-ouest, eh bien, les frais seront couverts, hein, c'est ça ?
Oui, les frais pour venir à Bordeaux, pour vivre à Bordeaux, les frais de formation, et ensuite pour retourner dans leur pays d'origine où ils feront leur stage de master.
C'est bien ça, c'est une bourse en deux temps. On insiste là-dessus, c'est pas du tout une incitation à la fuite des cerveaux, bien au contraire, puisqu'après, il y a toute l'application pratique dans le pays pour redistribuer en quelque sorte ce savoir à la communauté.
Exactement, c'est vraiment l'anti-fuite des cerveaux et c'est comme ça que nous l'avons conçu. Donc l'idée, c'est d'identifier des jeunes professionnels de santé qui sont déjà bien insérés localement. Ils viennent se former à Bordeaux, ils retournent dans leur pays d'origine et c'est un système qui fonctionne bien car la majorité d'entre eux vont ensuite poursuivre par une thèse et au jour d'aujourd'hui, on a un certain retour sur les précédents lauréats et cinq sont aujourd'hui chercheurs statutaires dans leur pays d'origine en Afrique.
Sur le plan théorique à Bordeaux, c'est quoi les points forts de votre cursus?
Alors vraiment, l'idée, c'est d'offrir une formation qui est pluridisciplinaire et qui va former les professionnels à élaborer et mettre en œuvre des projets de santé publique prioritaires dans les pays à ressources limitées. On insiste aussi beaucoup sur l'apprentissage de la démarche scientifique, toujours appliquée aux enjeux et contraintes propres aux pays du Sud.
Quand on parle de ces enjeux-là, justement, pour la santé des femmes, c'est bien l'objet de cette nouvelle bourse. Ça veut dire quoi précisément?
L'idée, c'est de pouvoir former des professionnels qui seront en mesure de développer en particulier des projets de recherche pour améliorer la santé des femmes. Et comme Denis Mukwege a eu le prix Nobel de la paix pour ses travaux visant à réparer les femmes victimes de viols, on souhaite mettre en avant, on souhaite favoriser les candidatures qui s'intéresseront aux violences basées sur le genre.
C'est un programme très très important pour les applications locales. Évidemment, ça concerne l'ensemble de la planète. Et il y avait déjà eu des bourses précédentes là qui concernaient, on va dire, une autre prix Nobel de la paix, une certaine Françoise Barré-Sinoussi, hein.
Oui, Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine pour la découverte du VIH. Donc, ces bourses existent depuis une dizaine d'années, donc on a pas mal de recul. Et la bonne nouvelle de cette année est qu'on aura une deuxième bourse Barré-Sinoussi. La première était financée par la NRS et mieux, et la nouvelle bourse sera financée par Expertise France.
Sur les profils justement des étudiants, c'est quoi aujourd'hui les pays qui ont jusqu'à présent vous ont doté justement de ces profils tout à fait prometteurs?
Alors, on a eu les précédents lauréats venaient de Côte d'Ivoire, du Togo, République démocratique du Congo, Guinée, le Congo-Brazzaville, le Bénin. Donc, on a balayé pas mal de pays francophones. Le lauréat de cette année de la bourse Denis Mukwege Pierre Fabre, c'est un jeune pharmacien qui s'appelle Adama Oumarou et qui part la semaine prochaine, qui retourne au Togo pour faire son stage auprès des travailleuses du sexe et la problématique des infections sexuellement transmissibles. Et il travaillera au sein de l'équipe du professeur Didier Kouévi qui dirige le département de santé publique à la fac de Lomé.
Alors, c'est concret. En termes de date, là aussi, du concret, candidature ouverte du 18 mars au 15 avril. Qu'on se le dise dans les facs de médecine, les doyens qui nous écoutent, transmettez toutes ces informations à vos étudiants pour justement accroître leur bagage scientifique et pratique. C'est très important. Merci à vous, professeur Becquet. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Demain, dans notre émission Questions de femmes, on va parler de l'importance de l'alimentation lorsque l'on est atteint de diabète ou en surpoids. Équilibre alimentaire, ce sera le mot d'ordre. Quels conseils en nutrition, quelles bonnes habitudes adopter? On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.